Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Et nous revenons au jour 1 d'un séjour à notre émission Mon Chaussure avec toujours notre obsession pour les mouvements et pour les réflexions qui peuvent en jaillir. Et donc on est en train de parler de la danse contemporaine et de ces magnifiques outils que nous avons tous pour découvrir des milliers de choses dans notre solitude mais aussi dans la compagnie d'une très bonne ensemble. Donc aujourd'hui, on revient avec cet outil des connaissances qui pourvoit plein d'ambitions de beaucoup de chorégraphes. Et on avait étudié un peu le XXe siècle en train de comprendre comment ce corps a révélé plein des situations bien heureuses et malheureuses pour beaucoup de penseurs du mouvement. Et on avait évoqué le poids comme un concept important de cette découverte, c'est-à-dire la compréhension physique de la gravité, de la force physique qui nous attire vers la Terre, et que quand on est en train de mouvoir nos membres, si on prête attention, ça va donner énormément de directions, de points de fuite, des facilités, aussi des complications à notre façon de produire et d'activer notre muscle. Et donc c'est dans ce sens qu'aujourd'hui je me permets de confronter une nouvelle notion qui transcende le corps et qui a apporté une vision extrêmement importante dans les chorégraphes du XXe siècle et qui ont proposé des choses qu'aujourd'hui peut-être sont peut-être normales, qui sont peut-être quotidiennes, mais que en regardant bien, ça va donner une vision beaucoup plus consciente de ce que on nous propose dans un spectacle, et on va estimer aussi la capacité illimitée du corps à nous proposer un cadre qui va justement être comme une sorte de boussole pour l'exploration. Et donc aujourd'hui, on va parler du souffle, on va parler de cette donnée importante qui nous accompagne au jour le jour, qui nous, même si on ne danse pas, on est toujours en train de respirer, et ce souffle qui est notre vie, qui nous détermine, mais aussi qui nous libère. Donc c'est un mécanisme respiratoire qui accompagne toute exploration, même si on ne le veut pas, et il est toujours là. Et donc je peut-être montre une citation toujours rattachée à notre Bible, notre texte qui nous accompagne durant ces émissions de danse. Et cette fois-ci, c'est Jean-Luc Nancy, cette philosophe qui a gravement accompagné la pensée du corps, et qui nous a beaucoup apporté, qui a beaucoup apporté aux théoriciens et aux chorégraphes en danse et ceux qui travaillent la notion du corps et d'autres notions, mais pour l'instant on se concentre sur celle-ci. On ne pense pas les corps si on ne le pense pas comme pesant. Et donc là, on se rend compte que il y a une importance à penser la pesanteur qui accompagne notre structure corporelle. On est absolument déterminé par ça, mais dans la recherche du corps, on essaye toujours de se détacher de cet causalisme qu'on veut toujours rattacher à notre part biologique. Donc on veut toujours dire que le corps est déterminé absolument par certaines causes qui sont absolument décrites dans les sciences. Et dans l'exploration du mouvement, c'est là où on va nous permettre d'ouvrir certaines clôtures qui sont dans notre tête et dans notre façon d'agir. Et un de ces termes, c'est peut-être l'argent. Donc c'est un, on dirait pas, mais si, c'est une grosse limite qui est là pour qui nous marque, même si on essaie de s'en défaire. C'est une marque qui est là et qui forcément a son emprise sur nous. Et une autre, c'est la famille. Donc c'est cette idée peut-être un peu platonicienne de ce que c'est la famille, de ce que nous marque, de ce que nous détermine, comment est-ce que la relation que j'ai avec mes parents, avec mes frères, mes sœurs, peut comporter une limite à ma façon de bouger, à ma façon d'être. Donc est-ce que ma sœur, elle bouge de cette façon, est-ce que c'est acceptable de me promener comme ça, de bouger mes bras comme ça, de hocher la tête, de regarder aux yeux. C'est beaucoup de toutes petites gestes qui modifient, qui identifient notre façon de bouger. Donc c'est des codes sociaux qui sont indispensables en société, mais que dans la danse contemporaine vont être pris à l'escalpel. Donc ça va être la matière de réflexion. Et donc là, on parle de une recherche de l'imprévisible. C'est-à-dire que la personne qui est en train de danser va pouvoir laisser advenir les mouvements qui sont dictés par sa physicalité, par sa pensée, et qui vont être absolument marqués par ce qu'on vient de dire, comme déterminés par ce que nous sommes, d'où nous venons, par nos histoires, par notre capital, par notre capital culturel aussi. Et ce qui se passe d'incroyable, c'est que quand on bouge, il y a toujours une part d'inconnu, des mystères, où le corps se manifeste d'une façon complètement autonome. Et c'est à ça que j'appelle l'imprévisible, c'est-à-dire cette notion absolument transcendantale qui est inexplicable, mais qui est un peu le centre de cette exploration corporelle. Et donc c'est là où l'improvisation, on avait parlé du contact improvisation, cette grande pratique qui a été très utilisée pour beaucoup d'écoles, pour beaucoup de maîtres, où il y a une fixation sur le poids qu'on peut faire subir à l'autre. Donc c'est une danse qui peut se faire minimum à deux, et on a une conscience de comment on fait une pression sur la surface du corps de l'autre, et à partir de cette condition physique, on va explorer l'espace, on va provoquer une sortie de l'automatisme dans lequel on est toujours imbibé. Et grâce à cet contact physique avec l'autre, qui ne doit pas être rompu, va se produire énormément de nouvelles façons de bouger, nouvelles directions, et surtout nouveaux appuis dans l'espace, mais aussi appui de la pensée, de comment est-ce que ce corps bouge et comment ce corps va se développer dans l'espace. Et on a peut-être une notion qui est importante, c'est l'épuisement. Et c'est-à-dire qu'on va travailler, normalement on travaille toujours de la relaxation, on travaille toujours d'amener les corps à une sorte de plaisir, des relaxations. Mais il y a aussi cette autre recherche qui s'agit d'épuiser le souffle, de travailler à l'extrême, c'est-à-dire d'amener les corps dans un essoufflement où il est en train de chercher dans les limites du possible de sa respiration. Et c'est Anna Halperin qui a notamment proposé ce travail d'épuisement par répétition. Donc c'est une compréhension extrêmement fidèle à nos structures, de ce qu'on peut appeler la sortie du contrôle. Parce que dans la société, on est toujours en train de contrôler, de devoir produire un système de comportement dans la société qui est obligatoire, parce que bien évidemment on va pas sortir dans les métros et regarder à tout le monde comme si on était un fou, parce que ça se fait pas et parce que il y a une raison à cohabiter avec les autres. Tandis que dans la recherche du corps, on va essayer de trouver ces limites qui sont socialement répréhensibles et de voir comment les corps peut se manifester autrement, bien évidemment dans une manifestation spectaculaire, évidemment, parce que c'est, même si on ne va pas produire un spectacle, c'est le but de ces explorations, c'est-à-dire que c'est sortir de ces cadres où nous avons été élevés. Et donc c'est ça, c'est un relâchement progressif de ces contrôles corporel. Et donc on va passer à une petite pause musicale que je vous amène aujourd'hui avec un son un peu soft, et vous me direz des signes.
Give me
Et donc avec ces petits signaux musicaux, on revient à notre compréhension corporelle de cette intérêt radiophonique pour la danse. Et donc on est en train de parler du souffle, de cette donnée absolument importante dans l'entraînement corporel et dans beaucoup de processus qui se sont intéressés à la conscience du corps. Le souffle, d'accord, donc on se pose beaucoup de questions sur ça parce que c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien et donc on dirait, bon, on ne va pas nous apprendre à respirer, on sait le faire parce que c'est comme ça qu'on habite notre corps. Sauf que quand on travaille le corps, on se rend compte qu'il y a des automatismes, qu'il y a des mécanismes qui sont absolument ancrés dans notre fonctionnement et que cet espace de recherche du corps nous permet de comprendre autrement ces mécanismes, de les déjouer, de les s'ouvrir, de les utiliser autrement d'une façon bien évidemment artificielle et artificielle dans le sens où c'est quelque chose fait pour le spectacle. Et donc c'est une sorte de commande silencieuse, c'est un dialogue diaphragmatique qui habite la cage thoraxique, qui se comporte de façon très différente selon comment on a été appris à respirer. Ça peut sembler idiot, ça peut sembler basique, mais par exemple pour ceux qui ont exploré le yoga ou qui ont exploré certaines pratiques physiques peuvent témoigner de la différence que ça fait quand on reprend conscience du diaphragme et du ventre et des muscles qui interviennent dans la respiration. Et donc parfois on peut penser qu'on respire bien et finalement on se rend compte que donc il y a une mécanique qui a été altérée ou qu'on on l'utilise pas pleinement. Et donc c'est dans ces questionnements de la mécanique diaphragmatique qui se trouve les secrets de beaucoup des propositions artistiques qui justement retrouvent une façon de proposer, de prêter attention de façon spécifique à cette mécanique qui nous habite tous. Donc c'est une sorte de nouvelle compréhension. Je me souviens de l'école où j'ai passé, où on faisait plein d'exercices justement pour prêter attention à quand les ventres sortaient, quand les ventres rentraient, et la modification que ça pouvait effectuer dans le reste du corps. Donc c'est quelque chose de peut-être très simple et très basique, mais qui va modifier l'entièreté du corps. C'est pour ça que je parle des dialogues diaphragmatiques, des dialogues d'un plusieurs sens, des dialogues avec soi, avec l'extérieur, mais aussi avec le partenaire des scènes. Et donc, c'est toujours une image de l'extérieur et de l'intérieur. Je me plais bien imaginer que quand on parlait du souffle, quand on parlait de cette respiration, l'air nous habite, l'air fait partie de notre corps, il n'a pas des poids à l'intérieur, physiquement il n'a pas des poids, mais il envahit tout notre système nerveux, système sanguin, et donc ça veut dire que quelque chose qui n'a pas de poids prend le relais à l'intérieur du corps et qui nous donne la vie. C'est quelque chose que quand on le réfléchit, quand on le pose en mouvement, quand on fait attention à ça, en train de bouger, on se rend compte comment ça peut modifier la façon comme le mouvement va être effectué. C'est une sorte de corps filtre, un corps qui reçoit quelque chose, mais qui a la capacité de filtrer cet air qui vient de l'extérieur et de le faire ressortir physiquement à travers de l'air, mais aussi avec la proposition créative de son mouvement. J'aime beaucoup les exemples précis et je m'imagine une personne dans une ville qui est dans un bus par exemple ou dans un transport en commun et qui va absolument sentir la vibration de la voiture et qui fait attention à comment il est en train de respirer au même moment que cette machine est en train de bouger. Et donc cette exemple, et c'est une proposition que je faisais quand j'étais adolescent, c'est que je faisais extrêmement attention à comment je respirais justement dans ces lieux où c'est bondé, il y a beaucoup de monde, donc on n'est pas censé être concentré sur soi-même parce qu'il faut être concentré sur la vie réelle. Et nous, on était entre collègues et on faisait attention à ça, on prenait attention à la posture, à comment on était debout et comment c'est cette notion d'un air qui est complètement social, parce que c'est l'air que tout le monde respire dans un espace restreint, et comment tout ça, ça allait nous modifier. Donc c'était notre petit passe-temps et qui était absolument un peu ordonné par ce qu'on nous donnait à l'école, par ce qu'on nous disait à l'école, et que nous, on le prenait de façon autonome à dire, bon, on va faire la recherche dans la vie réelle, pas seulement dans la classe. Et donc, c'est là où on se rend compte que si dans cet espace physique qui était social, où on ne doit pas se lâcher, et que si, au contrairement, on lâchait, on crée une sorte de suspension du vide assez intéressant, parce que les gens ils ne comprenaient pas absolument pas ce qu'on était en train de faire, ils nous regardaient peut-être de façon un peu inquiète. Mais pour nous, ça a été un espace d'exploration absolument important. Il faut se rappeler aussi que cette expérience a été donnée dans une capitale comme Bogota, je viens de la Colombie, et donc il y a des bus, il n'y a pas le tram, il n'y a pas le métro, donc c'est les bus qui est le transport le plus important pour tout le monde, donc c'est un espace quand même de convivialité, mais aussi de beaucoup de pression, donc c'était très intéressant de faire cette expérience justement là, au milieu de la ville, dans un transport en commun, où on n'est pas censé être en train de chercher son corps et de poser cette question à sa façon de respirer. Et donc dans ces sens, les découvertes sont illimitées. Et si vous les faites un jour, si vous pouvez avoir la possibilité de le faire et le temps de le faire, vous allez trouver plein de flux qui se construisent dans cette conscience de la respiration qui est un élément absolument important pour la danse contemporaine et qui peut aussi nous permettre de comprendre ce qu'ils appellent le continuum anthropologique, c'est-à-dire comment le fonctionnement du corps à travers les âges, à travers les siècles va être compris, va être utilisé. Donc c'est incroyable de penser qu'une personne du siècle, je sais pas, de 2001 avant Jésus-Christ respirait et comme une personne qui respire aujourd'hui en 2025. Donc c'est absolument passionnant de savoir comment est-ce qu'on respire, est-ce qu'on respire de la même manière, est-ce que sans parler de la qualité de l'air, bien évidemment, mais parler juste de nous, notre façon de fonctionner. Donc, c'est absolument passionnant. Et donc, on parlait au début du poids et de cette contradiction de la gravité, parce que l'air ne pèse pas, mais sauf que quand l'air rentre dans notre corps, il va absolument effectuer une influence, une pression. Et par contre, tout le reste de notre corps va peser. Et donc, c'est cette notion entre l'air qui circule à l'intérieur de nos poumons et le ressenti du poids qui font provoquer des combinaisons et des rigets aussi qui permettent au corps de bouger comme il bouge, de bouger comme ses possibilités les permettent. Donc d'une certaine façon, la respiration, c'est une sorte de victoire, contre ce poids. Ce poids qui nous rallie toujours à la Terre, qui nous rappelle toujours cette loi gravitationnelle qui nous relie les uns aux autres, mais qui aussi a permis des explorations assez importantes pour le corps dans la danse, surtout dans les flying low ou dans la danse contemporaine des sols, que beaucoup d'entre vous pourraient connaître. Une autre peut-être donnée, c'est l'inspiration orientale, c'est-à-dire que vous sentez que tous ces charabia pour la respiration a une fondation absolument ramenée de l'Orient, de toutes ces pratiques méditationnelles qui prêtent un intérêt assez conséquent à la respiration pour des méthodes des soins, des méthodes de purification, des méthodes spirituelles, des méthodes nombreuses. Mais qu'en tout cas, c'est ça qui est absolument admiratif, je ne sais pas si ça existe, c'est l'importance de la respiration dans l'action, dans cette action créative. Parce que c'est là où on se rend compte que le squelette bouge, le squelette nous communique sa résistance à l'air, contre l'air, qui se manifeste justement pour contre ce loi physique qui lui régisse. Et donc c'est là où vient toute cette conception de la position, par exemple des débouffes, la position où souvent dans les cours de danse, on va se relever si on est complètement accroupi contre le sol, on va se relever doucement et on va retrouver cette notion de la position des débouts et qui va donner toute une conscience très satisfaite sur la respiration et sur sa corrélation avec le mouvement, avec notre façon de produire ces mouvements. Et donc c'est tout le problème de notre colonne vertébrale, de comment l'air qui passe à travers notre corps peut donner une réflexion beaucoup plus aboutie sur comment poser le corps, comment l'utiliser, comment se rappeler toujours de cet ascendant et descendant de l'air qui est toujours là et qui est représenté de façon un peu abyssale avec l'haleine, non, avec ce traitement exacerbé de l'haleine qui va forcément toujours nous rappeler un corps primitif, un corps qui est toujours là pour... Je me plais bien avec cette image de Chewbacca, cette corps qui a beaucoup de poils et qui se dépoussière avec le mouvement. Et je pense que c'est une image très utile pour l'exploration du corps. Et aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et je vous souhaite une belle semaine avec des beaux mouvements et à la semaine prochaine.
Alors tu veux faire danseur?
And push and turn and table drop.
Qu'est-ce que ça te fait au juste? lorsque tu danses.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!